Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous tant attendu. Le débat politique de Radio Ndékélouka d'aujourd'hui s'intéresse à l'actualité qui fait toller ces derniers mois. Les choses se précisent désormais pour le projet d'une nouvelle constitution en République centrafricaine. Il a fallu 5 mois de débat politique pour que le chef de l'État, Faustin Kran Touadéra, se prononce enfin officiellement sur le sujet. Le projet d'édition d'une nouvelle constitution est désormais acté par le gouvernement. Question du jour, a-t-on les moyens financiers pour le référendum? Que se cache-t-il derrière ce projet? L'opposition démocratique et la société civile sont capables de faire avorter ce projet. Le plateau Patara d'aujourd'hui fait place à 2 juristes. L'un est député et président de la commission de loi à l'Assemblée nationale, l'initiateur du projet de révision de la Constitution, Monsieur Brice Kevin Kakbayen, bonjour.
Bonjour Armando.
Eh bien, l'autre c'est Monsieur Crépin Bolugumba, bonjour.
Bonjour.
Avocat au barreau de Centrafrique, ancien ministre d'État et actuel coordinateur du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Armando Nguindi, c'est moi encore. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndékélouka.
Eh bien, Monsieur Bolugumba, qu'est-ce qui vous a motivé d'avoir accepté de participer à ce débat pour la première fois depuis 3 ans, mais aussi sur ce sujet?
Je vous remercie, Armando. Je me suis vu obligé aujourd'hui d'intervenir sur les ondes de Radio Ndékélouka au regard de la gravité de la situation de notre pays. Des initiatives ont été prises ces derniers temps. Le couronnement de ces initiatives, à travers les marches, c'est la déclaration du président de la République. La veille de la fête nationale, qui est une fête symbole pour le peuple centrafricain en termes de souveraineté nationale. Le président de la République très clairement a confirmé qu'il était bien derrière les manifestations visant à modifier, à réviser ou encore à avoir une nouvelle constitution pour la République. Devant cette gravité, après la mise en place du bloc républicain pour la défense de la constitution, il m'a paru important d'aller à la rencontre du peuple centrafricain, à travers les médias notamment. Et puis aujourd'hui, nous avons en face de nous l'initiateur de ce projet, M. Kakbayen, qui, comme tout un chacun le sait, avait réuni le gotha du régime à l'hôtel Ledger pour expliquer qu'il entendait introduire une proposition de loi afin de réviser la Constitution. D'ailleurs, à l'occasion, et notamment sur vos ondes, il avait dit qu'il était constitutionnaliste. Je ne sais pas comment on devient constitutionnaliste sous ce régime, si c'est avoir une maîtrise. Aujourd'hui, il va nous expliquer. Toujours est-il que le projet initial, c'était de réviser la Constitution, notamment sur les dispositions qui sont intangibles, l'article 35 notamment. À l'arrivée, la déclaration du président de la République était un désaveu vis-à-vis de son savoir, puisque désormais, il n'est plus question de réviser la Constitution. Il est désormais question d'avoir une nouvelle Constitution pour la République centrafricaine. Seulement voilà, même pour avoir une nouvelle Constitution, et je suppose que nous allons y revenir, pour avoir une nouvelle Constitution, cela n'est pas non plus possible. Je pourrais vous dire les raisons pour lesquelles cette nouvelle Constitution n'est pas possible. Il y en a 3, essentiellement. 3 comme 3 obstacles insurmontables sur le chemin de ceux qui veulent et rêvent d'une nouvelle Constitution. Le premier obstacle, c'est l'article 151 de la Constitution du 30 mars 2016. Cet article dit que le projet, pour qu'il puisse aboutir, c'est-à-dire qu'on arrive à un référendum, il faut qu'il soit validé par les 2/3. Et je le dis de mémoire, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Constitution. Je dis de mémoire, l'article 151, il faut que ce projet soit validé par les 2/3 du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Il se trouve que le Sénat n'a pas été mis en place. Certes, l'article 156...
On ne va pas rentrer dans le débat, mais d'abord votre motivation.
Je vous explique pourquoi. Parce que c'est important pour que les auditeurs puissent comprendre. C'est-à-dire, ça s'appelle planter le décor. Et je dois planter le décor pour que tout un chacun puisse comprendre pourquoi ce qui est en train de se faire est complètement en dehors de la légalité constitutionnelle. Et donc, cet article 156 fait assumer par l'Assemblée nationale la totalité du pouvoir législatif. Mais le pouvoir législatif n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir législatif n'a rien à voir avec le pouvoir constituant. Et donc, il n'est pas possible à ce jour que l'Assemblée nationale s'arroge le droit du pouvoir constituant. Et le troisième et dernier point, qui est un obstacle aussi, c'est le caractère anticonstitutionnel du projet. Il y a des dispositions qui sont intangibles. Vous avez entendu qu'on voulait créer en République centrafricaine 2 catégories de citoyens, ceux qui ont la double nationalité et ceux qui n'ont qu'une seule nationalité. Or, le critère d'éligibilité relève des dispositions intangibles de la Constitution du 30 mars 2016. De sorte que même si on voulait faire un référendum, ce projet serait d'abord apprécié au regard de la légalité aujourd'hui, c'est-à-dire au regard de la Constitution du 30 mars 2016, ce qui serait donc anticonstitutionnel. Toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, c'est un projet mort-né. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons créé le Bloc républicain pour défendre la Constitution et finalement défendre la démocratie dans notre pays.
Nous allons donner la parole à vous, M. Kakwayen. Pourquoi vous aussi, vous avez accepté de débattre avec M. Boligumba sur ce sujet?
Merci Armando, merci Andekeluka et je remercie mon doyen confrère Crépin Boligumba qui a dit qu'il a accepté vraiment d'être là parce que la question se pose maintenant avec acuité. Je suis avocat parce qu'il a tenté de dire quelque chose ici, mais vraiment de grave. Pour dire que Kakwayen a dit qu'il est constitutionnel, ce que je n'ai jamais dit et ce que je n'ai jamais dit de ma bouche. Je suis juriste, ressortissant de l'université de Bangui pour ceux qui veulent faire des recherches. J'ai terminé mes études à l'université de Bangui en année de maîtrise. J'ai fait mon master 1 en droit, option carré judiciaire. Les preuves sont là encore à l'université. Je ne suis pas un parvenu dans ce domaine-là. Ce qui m'a poussé à prendre part aujourd'hui dans ce débat, Armando, c'est juste pour rompre avec le silence. Si vous constatez, depuis que j'ai présenté ma proposition de loi à Ledger, je n'ai plus pris parole pour expliquer quoi que ce soit. Cela m'a permis au moins de passer en revue, de voir les réactions des uns et des autres. Et parmi ces réactions, la réaction de mon doyen confrère, Crépin Boligumba, qui, depuis la nuit des temps, a toujours milité pour la création des blocs. Ils en ont créé pas mal dans ce pays-là. Quand on quitte depuis Phare, on arrive, telle entité, et aujourd'hui nous sommes encore à un autre bloc qu'ils ont créé. Et si tu vois bien la configuration, ce sont les mêmes personnes. Et j'ai en face de moi Maître Crépin Boligumba. Il faut qu'on se connaisse normalement. Vous venez à peine de le présenter ici comme ministre d'État. Il a été ministre d'État sous le règne de la Séléka. Il faut qu'on le dise et qu'on se connaisse. Il faut que les gens sachent de quoi on est en train d'en débattre. Monsieur Boligumba, aujourd'hui, il se met en position d'interdire à ce que la Constitution soit modifiée afin qu'on ne puisse pas arriver au moins à avoir une nouvelle Constitution alors que lui-même, par acquis de conscience, pendant qu'il marchait sur Bangui avec la Séléka, il était un membre influent de la coalition Séléka. Pendant qu'ils arrivaient, il y avait une Constitution. La Constitution du 5 décembre 2004. Cette Constitution qui avait mis en place les institutions. C'est lui-même avec la Séléka. Ils sont venus tout renverser. Aujourd'hui, je suis en face de lui, mais je comprends qu'il y a une ingratitude.
Mais la Constitution de 30 mars 2016, c'est après la Séléka.
Effectivement. Ça, là, nous sommes en train de remédier à ce qu'ils ont semé, à ce que Boligumba et sa suite ont semé. S'ils n'avaient pas détruit, s'ils n'avaient pas en tout cas rompu avec la Constitution de 2004, on n'en serait pas aujourd'hui à cette Constitution de 2030. Du 30 mars 2016, mais qui présente en tout cas des difficultés, qui présente en tout cas des anomalies. Et c'est sans ces anomalies que moi, en tant que député de la nation, élu de la nation, est-ce que c'est une interdiction pour moi aujourd'hui de faire une proposition de loi? Et c'est pour cela que je dis, en tant que député, parce que vous voyez, si on revient un peu en arrière, on va se rendre compte que les législatures qui se sont déroulées, les gens disent toujours que non, les députés sont des idiots, les députés ne connaissent rien, les députés sont ceci, sont cela. Et lorsqu'un député aujourd'hui sort pour planter le décor, pour pousser le pays à aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a des progressistes, il y a des conservateurs. Mais c'est un débat que nous avons mis sur la place publique où chaque personne doit apporter sa pierre de contribution. Donc c'est pourquoi moi-même je me suis dit, avec cette proposition, ce n'était qu'une proposition. Cela n'est même pas interdit. Si aujourd'hui, mon doyen confrère Boligumba dit que l'article 151, il venait de dire que l'article 156, il l'a bien cité. Il est dit dans cette constitution de 30 mars 2016, en son article 156, en attendant la mise en place du Sénat. Ceux qui avaient élaboré cette constitution à l'époque, pourquoi ils n'ont pas trouvé un autre moyen pour le dire, une autre forme pour le dire, et ils vont dire en attendant la mise en place du Sénat. Donc, je pense que je suis dans la logique de ma mission de parlementaire. Et aujourd'hui, si certaines personnes se lèvent pour barrer la voie à ce que la loi elle-même a prévu, l'article 151 de cette constitution dit l'initiative de la révision appartient concurremment et au président de la République et au Parlement. Si le président de la République n'avait pas pris le temps pour le faire, mais nous, au niveau du Parlement, nous l'avons fait et c'est ce que j'ai fait. Donc, on ne peut pas m'interdire le droit de faire ce travail.
Vous êtes largement en avance selon le chrono sur M. Boligumba. Vous réagissez sur vos motivations pour compléter le timing avant de commencer.
Merci. Le confrère Kakpayen a parlé et je cherche encore à comprendre ce qu'il a voulu dire en termes de soubassement juridique. Rien de cohérent. Je voudrais d'abord ici dire que je ne suis point étonné. Vous savez, pour maîtriser une matière, il faut maîtriser la langue dans laquelle cette matière se pratique. Le choix de vos mots est discutable et approximatif à l'image de votre projet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pouvoir constituant n'a rien à voir avec le pouvoir législatif. Et vous m'avez fait rire quand vous avez parlé de Séléka, un peu comme l'homme de la rue, le non-intellectuel, qui répète sans savoir. Être avocat, c'est la justesse dans le choix des mots. Vous avez dit que nous avons marché sur Bangui. Aujourd'hui, je pourrais vous poursuivre et vous retrouver en prison lorsque votre régime, il sera qu'un défunt régime. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous avez eu un peu de rigueur dans le choix des mots, parce que tout en vous et tout ce que vous dites sont l'approximation. Si vous avez eu un peu de décence dans le choix des mots, vous auriez su que lorsque j'étais à Libreville, j'étais vice-coordonnateur de l'opposition démocratique et que contrairement à ce que vous avez dit, j'ai jamais été membre du phare. Mais vous répétez, et le fait que vous soyez même un porte-flambeau d'un projet si important pour ce régime et pour ce pays est révélateur de la sécheresse intellectuelle qui s'est emparée de ce régime. Il faudrait que le peuple centrafricain le sache. Cette parenthèse aujourd'hui, parce que d'ailleurs, l'inventeur de cette fable de la Séléka, à savoir l'honorable Zingas, s'est rétracté publiquement pour dire qu'il avait dit ça sous le régime du président Boïse pour manger. J'imagine que les faits importent peu pour vous dans votre système. Aujourd'hui, il faut que j'explique à mon confrère ce que c'est qu'un pouvoir constituant. Pouvoir constituant pour rédiger une constitution. Il y a le pouvoir constituant originaire lorsqu'on veut une nouvelle constitution et le pouvoir constituant dérivé lorsqu'on veut une révision de la constitution. Vous avez parlé de tout sauf de votre projet en tant que professionnel du droit. Vous avez fait des divagations. Et vous ne nous avez pas convaincus. En réalité, on cherche encore à savoir pourquoi. Personne ne vous a interdit le droit d'exercer votre métier. Vous avez été élu. Et d'ailleurs, vous avez trompé vos électeurs. Vous avez été élu en tant qu'indépendant. Vous avez pris le mandat des députés de Mbaïki 1 pour le mettre au service d'un système. Les députés, les habitants de Mbaïki 1 qui nous écoutent savent très bien que vous les avez trompés. Mais cela vous importe peu. Ce projet aujourd'hui ne peut pas tenir la route. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, il y a une constante depuis 40 ans dans l'histoire constitutionnelle de notre pays. L'article 59 de la Constitution impériale du 4 décembre 1976, je le dis de mémoire, dit qu'on ne peut pas poursuivre un projet de modification ou de révision de la Constitution, parce que le terme exact est révision de la Constitution, tant qu'il y a atteinte à l'unité nationale. 1976, l'article 101 de la Constitution de 1995, encore 104. C'est-à-dire que depuis plus de 40 ans, 42 ans pour être précis, il y a une tradition en République centrafricaine. On ne peut pas modifier et réviser. Le président de la République lui-même a dit que nous étions en guerre. Or, lorsque nous sommes en guerre, il n'est pas possible, au terme de l'article 153, dernier paragraphe, de réviser la constitution de notre pays. Toutes ces raisons, vous aurez dû les savoir, et ça vous aurait évité, parce que j'ai une pensée pour le bâtonnet Zarambo, et j'imagine la solitude et le désarroi du bâtonnet Tchangaï, qui ont une certaine idée de notre profession, la rigueur dans ce que nous faisons. Si vous aviez pris le soin, vous n'aurez pas été désavoué, et au-delà de vous, désavoué.
Et cela m'amène à vous poser cette question, messieurs. Oui. Est-ce que les institutions en place sont légitimes d'entreprendre la modification ou l'écriture d'une nouvelle constitution?
Tout naturellement, évidemment. En intégrant les exclusions. Je vous ai parlé de l'article 153. L'article 153 dit qu'aucun projet de révision ne saurait prospérer lorsqu'il y a atteinte à l'unité nationale et il y a atteinte à l'intégrité territoriale.
Avec ce qui se passe sur le terrain avec les groupes armés.
Voilà, exactement. Donc je vous pose la question, est-ce que nous sommes dans un cas où il y a atteinte à l'unité? Et je voudrais vous dire aussi, vous avez ici le rapport de Boyo, du rapport des Nations Unies. Parce que lorsqu'on sert un régime qui a fait trois fois plus de morts que le régime Séléka, et où il y a un rapport ici, Armando, qui dit que le gouvernement a constitué des milices pour tuer des centrafricains, il y a des soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Lorsque, contre la constitution de notre pays, on a au sein de son gouvernement, et du régime que le confrère Kakbayen défend, les fondateurs de la Séléka, qui ne s'en cachent pas, lorsqu'on a le représentant de l'UPC qui a massacré à Alindao, et qu'on l'a soustrait à la justice, et lorsqu'il y a ce rapport de Boyo qui dit, vous pouvez lire ici, qui dit que l'attaque du village de Boyo est l'un des premiers durant ce conflit armé prolongé où le gouvernement aurait, avec l'aide des membres de sociétés militaires privées formées et armées des jeunes recrutés localement et créer des milices pour pénétrer dans des villages sous le contrôle des groupes armés. Un rapport crédible. Lorsqu'on a fait tout ça de manière explicite, on perd l'autorité morale pour parler de Séléka, dont je ne fus jamais membre et dont les membres fondateurs aujourd'hui sont vos collaborateurs.
Monsieur Bolungumba, vous avez trop d'avance de 4 minutes sur Monsieur Kakpayen. Monsieur, vous êtes l'initiateur du projet de révision de la Constitution et vous souhaitez faire sauter le verrou qui limite à 2 le mandat présidentiel en son article 35. Quelles sont vos argumentations concrètes en matière?
Merci Amando. Je voudrais ici répliquer à mon doyen confrère Mbolingumba qui a tenté de me faire une leçon de morale comme si on était sur le banc de l'université. Mais écoutez, il ne faut pas qu'on fasse vraiment amalgame dans ce que nous sommes en train de dire. L'acte que j'ai posé aujourd'hui, je ne me suis pas éloigné du droit. Et lui-même, dans son fort intérieur, il sait pourquoi il ne veut pas que ce projet ne puisse pas prospérer. Il sait pour le compte de qui il roule. Pour que ce projet ne puisse pas vraiment prospérer. Le moment viendra où on va vraiment aller au fond.
On rentre déjà dans le fond du sujet, c'est pourquoi je vous ai posé cette question.
Quand vous prenez aujourd'hui la constitution du 30 mars 2016, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a problème. Déjà même avant que cette constitution puisse vraiment être élaborée, il y a eu des voix qui se sont levées pour dire, pour clamer déjà haut et fort que le Conseil national de transition à l'époque qui avait élaboré cette constitution-là, n'avait pas de légitimité. Et lors de ma conférence de presse, j'avais rappelé le président Zigele, pour qui j'ai du respect, lors du forum de Bangui, on a fait part, il a souligné, il a dit, en tout cas, il faut que, dès que les autorités, c'est bien vrai que le forum de Bangui va jeter les bases, pour que sur ces bases, nous puissions avoir une nouvelle constitution. Il a dit, dès que les nouvelles autorités seront mises en place, il faut qu'on réécrive une nouvelle constitution. Ça, c'est de un. Deuxièmement, j'ai cité le professeur Akandi, qui même, lors de ce forum de Bangui, a aussi émis le vœu que, dès que les autorités nouvelles seront mises en place, il faut qu'on réécrive une nouvelle constitution. Et pour Akandi, il est parti même loin pour faire même un livre. J'ai même ce livre-là. Je le lis chaque jour, avec les idées qu'il a même émises, pour qu'on puisse réécrire une nouvelle constitution. Et c'est là où je me dis, pendant qu'il émettait ce vœu pour qu'on puisse avoir une nouvelle constitution, et voilà que la constitution a été élaborée par le CNT, dont je faisais partie. J'étais membre du Conseil national de transition à l'époque. Est-ce que ce pourquoi ils voulaient que cette constitution soit vraiment réécrite à nouveau, est-ce que leur pensée a disparu? Est-ce que la constitution elle-même a évolué pour qu'aujourd'hui qu'ils reviennent encore sur le terrain pour dire non? Eux-mêmes, ils disent non, au jour d'aujourd'hui, il ne faut plus toucher à cette constitution. Mais est-ce que la raison qui les a poussés à l'époque pour demander à ce que nous ayons une nouvelle constitution réécrite par les nouvelles. Lorsqu'il parlait des nouvelles autorités mises en place, il faisait allusion à qui? C'est ça la question que nous posons. Ok, je reviens maintenant à votre préoccupation. Sur l'article 35, vous voyez, tout le débat qui se passe aujourd'hui, tout le débat que nous avons aujourd'hui tourne autour de cette question. Quand même que nous avons fait des propositions innovantes, mais ce qui attire beaucoup plus l'attention de certaines personnes, de certaines personnalités, c'est la question de l'article 35 qui dit que le mandat de président, c'est-à-dire le chef de l'État, il est élu, il a juste un mandat d'un an, c'est-à-dire un mandat renouvelable une fois.
Moi, deux fois cinq ans.
Je me suis dit, est-ce que réellement, au jour d'aujourd'hui, comme j'ai en face de moi un candidat aux élections présidentielles qui est là en face de moi, mon confrère Mbolingumba, est-ce que réellement, en 5 ans, un président de la République, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas les moyens de notre politique. Vous prenez un président centrafricain qui est élu aujourd'hui, quand il arrive au pouvoir, il a 5 ans. Il est plein d'initiatives. Il a des choses qu'il doit mener pour que le pays puisse vraiment avancer. Vous le prenez. Prenez un président centrafricain, prenez un président européen. Mettez-les sur le point de départ, dites-les avant marque, prêt. Partez, courez pour le développement de votre pays. Vous allez voir. Si c'est le cas du président français, il va aller directement au bout parce qu'il a les moyens de sa politique. Or, chez nous aujourd'hui, quelqu'un est élu président, il tourne en rond. Il faut qu'il sorte de là où il est pour aller commander à l'extérieur pour venir développer le pays. Alors que nous ne sommes pas...
Et qu'est-ce que vous avez proposé la fois dernière?
J'ai proposé que, au lieu de dire renouvelable une fois, on dit seulement que le mandat est renouvelable. C'est ma proposition et je l'ai fait.
Ça veut dire que renouvelable, il peut continuer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois.
Et cela ne veut pas dire que nous interdisons qu'il y ait des élections. Maître Mboli Gumba, il est candidat. Il a fait plusieurs fois. Il est plusieurs fois candidat malheureux aux élections.
Une seule fois, monsieur.
Plus... Ok, d'accord.
Même ça, vous n'êtes pas capable de dire quelque chose d'exact.
Mais écoutez, vous avez tenté plusieurs fois. Donc, écoutez, là, je suis en train de... Je vois le futur. Il se pourrait que aujourd'hui, comme tout le monde dit, ça, tout le monde pense que nous sommes en train de maintenir Touadéra au pouvoir. Alors que cette question-là, ça n'a rien à voir avec le président Touadéra, mais nous sommes en train de penser au futur. Je suis élu de la nation. Je suis en train de penser au futur de la République centrafricaine. Il se peut que, bon, demain, on finit tout ce travail et que c'est Maître Mboli Gumba qui arrive au pouvoir. Est-ce que cela ne va pas lui permettre également d'étendre également, c'est-à-dire de jouir, d'aller dans le sens de sa mission? C'est pourquoi j'ai dit, au lieu de dire que le mandat est renouvelable une seule fois limité, on dit seulement le mandat est renouvelable.
Vous avez fait l'égalité de minutes avec monsieur Krupa Bolingumba. Je vous donne la parole sur cette question de l'article 35 de déverrouiller le mandat présidentiel.
Il y a une seule chose de vrai dans l'intervention du confrère Kapayen, et l'unique chose, c'est qu'il dit que le président Touadéra tourne en rond depuis son élection et qu'il n'a rien foutu.
Je n'ai pas dit que Touadéra tourne en rond.
Confrère, je peux terminer?
Si le confrère Boligumba, est-ce que je peux si terminer? Il a des problèmes personnels.
Vous allez répondre, monsieur Boligumba.
Si le confrère Boligumba a des problèmes personnels avec Touadéra, il n'a qu'à dire à Touadéra. Je n'ai pas dit que Touadéra.
Bon, c'est bon, vous l'avez déjà répondu. Je reprends votre chrono, monsieur Boligumba. Allez-y.
Il faut garder à ce débat le temps et la hauteur qu'il mérite. Je ne vous ai pas, vous avez remarqué, vous avez dit des choses, je ne vous ai pas coupé. Il faudrait que vous appreniez aussi ce que c'est que la bienséance et l'urbanité. Vous n'avez pas à me dire. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par déduction. Et je vais vous apprendre ça. Vous avez dit ici, et les auditeurs l'ont retenu, que si les présidents, quand ils sont élus en Centrafrique, comparés aux présidents français, ils ont le temps d'aller quémander, ils tournent en rond. C'est comme la tautologie pour dire « nous sommes mortels, Socrate est mortel ». Vous voyez, c'est ça l'analogie. Donc, si les présidents, quand ils sont élus en Centrafrique, ils tournent en rond, et que le président Touadéra est centrafricain et président de la République, donc ils tournent en rond. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Donc ça s'appelle un raisonnement par analogie, vous pouvez prendre note. Deuxièmement, ce que je suis en train de dire, et je vous le démontre, je démontre ce que vous avez dit, que le président est tourné en rond parce qu'il est président de la RCA et que tous les présidents tournent en rond. C'est ça le raisonnement par analogie. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que je cherche encore le raisonnement juridique qui pourrait sous-tendre la modification ou la révision que vous voulez ou la nouvelle constitution. Parce que votre raisonnement, c'est ce que pourrait tenir l'homme de la rue. Nous sommes des juristes, des professionnels du droit. Il faut plus que ce que vous dites. Il faut des détails techniques. Ce que vous voulez installer, c'est un pouvoir à vie. Je suis heureux que vous l'ayez avoué aux auditeurs, et donc au peuple centrafricain.
Et c'est ça pour sa proposition. Mais maintenant, quelle est donc votre proposition dans votre bloc?
Nous sommes pour la défense de la Constitution telle que le peuple centrafricain a décidé en termes de contenu. Parce que vous savez, pour la première fois de notre histoire, ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui, à l'intérieur du pays, ont été consultés à travers le forum de Bangui. Le forum de Bangui a décidé que nos institutions doivent être pérennes. Et puis, il y a un aveu terrible ici. Vous avez certainement remarqué comme moi. C'est-à-dire que si le président Touadéra a échoué, mais en fait, s'il a échoué, c'est parce qu'il n'a pas eu assez de temps. Vous avez certaines, et je vous ai vu sourire. Donc, c'est un aveu terrible d'échec. Mais vous savez, dans une nation, dans un État, dans une République, quand on a échoué, on en tire toutes les conséquences et on souhaite bonne chance à la République en tout ça. Le confrère Kapayen a semblé dire que ça pourrait me profiter, le pouvoir à vie. Moi, je voudrais dire que ma conception du pouvoir est simple. On doit avoir l'humilité d'être convaincu qu'il y a toujours mieux que soi dans une République. Je suis candidat au pouvoir, certes. Et si je suis élu président de la République, au bout de deux mandats, je me retire sur ma terre à Bangassou, cultiver et profiter de la vie avec la conviction que celui qui va me succéder, il va faire mieux que moi. C'est ce qu'on peut souhaiter à un pays, parce qu'un pays n'est pas à la dimension d'un homme. C'est ma conception du pouvoir.
Mais avec la situation du pays, l'insécurité à répétition, seulement 5 ans comme a proposé M. Kapayen, vous pensez que celui qui gère aurait la chance,
vous savez,
ou bien le temps qu'il faut,
Armando,
pour bien gérer?
Armando, c'est d'une rare gravité ce que j'entends ici. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. C'est-à-dire que vous avez un bail, vous en connaissez les termes, vous voulez changer les règles du jeu en cours de match. Le président Touadéra, avant d'être président de la République, savait très bien dans quoi il s'engageait. Il savait très bien les termes de cet article 35. Il savait très bien qu'il avait un mandat renouvelable une seule fois. Il est proprement insupportable qu'après avoir été élu et après avoir prêté serment. Parce que le président Touadéra, non seulement s'est rendu coupable de parjure, mais aujourd'hui, il peut être poursuivi pour haute trahison. Parce que vous savez, on ne s'amuse pas avec la constitution d'un pays. Et les arguments qui sont développés ici sont loin de convaincre. Personne irremplaçable dans une république. Lorsqu'on a fini son terme, on n'a pas le droit de chercher à créer des conditions d'une déflagration sous le fallacieux prétexte qu'on n'a pas eu assez de temps. Vous parlez de Kémondé, mais il y a eu un programme politique sur lequel le président a été élu. Et ce programme promettait la sécurité pour les Centrafricains. On connaissait très bien la situation du pays. Aujourd'hui, nous n'avons ni la sécurité, ni la prospérité, et tout ce qu'on nous promet, c'est le pouvoir à vie. Voilà pourquoi, comme par le passé, parce que dans ce pays, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés pour dire non à la dictature, et ils y ont laissé leur vie. Nous ne pouvons pas accepter qu'en 2022, des hommes n'ont qu'un seul rêve, c'est le pouvoir à vie. C'est inadmissible.
L'autre aspect, oui, vous voulez rebondir quelques secondes pour qu'on remonte rapidement sur l'autre aspect.
Je vais rebondir un peu sur cette question-là pour que je puisse faire comprendre à Maître Mboli Goumba. Est-ce qu'il peut nous dire l'historique de la limitation des mandats? C'est ce qu'il n'a pas compris. Et c'est pourquoi je disais que mon confrère Mboli Goumba, il roule pour peut-être une institution ou bien il roule pour quelqu'un, je ne sais pas. Vous savez, à l'époque, avant la conférence de la Bolle, bon nombre de pays africains roulaient pour le compte du parti unique. C'est lorsque le président Mitterrand s'est rendu compte que, à ce rythme-là, avoir des présidents qui viennent au pouvoir, qui arrivent au pouvoir, et avec une constitution qui leur permet d'aller de l'avant, le président Mitterrand a convoqué les 35 présidents africains lors de cette conférence de la Bolle en 90. Pour dire que, les amis, écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié et de coopération. Mais on doit aller maintenant vers le développement. Pour ce développement-là, qu'est-ce qu'il a promis? Il a demandé à ce que chaque président africain puisse rentrer dans son pays et de réviser la constitution et de limiter le mandat à deux. Armando, c'est comme ça que, au retour, bon nombre de ces pays africains ont vu leur constitution révisée. Et encore, au lieu que ça soit seulement dit, de cette manière-là pour que nous puissions rester dans le domaine démocratique. Mais il avait dit clairement à ses présidents de repartir, de réviser la constitution. Cela était assorti d'une mesure d'accompagnement. Et donc, comme les présidents avaient appris qu'il y avait des mesures d'accompagnement, ils sont revenus et ils ont commencé maintenant à réviser leur constitution jusqu'à pour que nous puissions en être. Voilà l'historique de la limitation du mandat présidentiel. Mais peu de temps après, ces mêmes présidents qui étaient à la conférence de la Bolle se sont rendus compte qu'ils ont été dupés parce qu'ils avaient encore des projets viables pour leur population, pour leur communauté, pour leur nation. Et ils se sont rendus compte que c'est un moyen qui a été mis en place pour que ces pays-là soient toujours sous la domination du colonisateur. Et ils ont dit, niet, nous. Et encore, il faut noter que bon nombre de ces pays n'avaient même pas bénéficier de ces mesures d'accompagnement. Et c'est comme ça que ces mêmes pays ont commencé à réviser encore à nouveau leur constitution. Parce qu'une constitution n'est pas quelque chose vraiment de rigide. Une constitution n'est pas une parole de la Bible. C'est nous, ce sont les hommes, ce sont les êtres humains qui élaborent la constitution. C'est tout comme la loi que nous utilisons aujourd'hui. La loi, elle est faite par les hommes. Elle ne peut être modifiée que par les hommes. Et même tu vas voir, lors de cette conférence de la Bolle, mais le président sénégalais à l'époque, Abdou Diouf, c'est lui qui était vraiment le premier. Il a exhorté les autres. Mais comme vous voyez aujourd'hui le Sénégal, l'actuel président du Sénégal est obligé de dire pas de limitation de mandat. Parce que derrière la limitation de mandat, c'est la guerre. Derrière la limitation du mandat, nous voyons la main du colonisateur. Pour que nous puissions être toujours en conflit, il n'y a pas de stabilité. Entre nous, Centrafricains, entre les pays africains, il n'y a pas de stabilité entre les fils d'une même nation parce que ça, c'est devenu un moyen par lequel nous nous entretuons. Et ça fait que nous manquons de stabilité. C'est pourquoi moi-même, j'ai réfléchi pour dire, mais écoute, Armando, ce projet n'est pas resté seulement à mon niveau, comme je l'ai fait. J'ai présenté aux députés, nous sommes 140, Mais 102 députés ont accepté et ils ont dit qu'effectivement, ils sont pour. Et ce n'était plus mon travail à moi seul. Donc, c'est devenu l'apanage de la Front National pour qu'on puisse...
On va clôturer ce chapitre. Vous avez réagi. Vous avez 2 minutes de plus. Je vous donne 2 minutes, M. Bonungouma, pour rebondir. Et puis, comme ça, on saute sur un autre chapitre.
Armando, mon confrère Kakbaye ne s'est même pas rendu compte que son projet est déjà enterré. Son projet était la révision. On parle de référendum constitutionnel. Même à ce niveau, il ne s'est même pas encore rendu compte qu'on a désavoué publiquement et enterré son projet. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il convoque le cadavre du président Mitterrand ici pour parler de la bolle. Mais ce n'est pas le président Mitterrand qui est responsable du fait que depuis 3 jours, on l'a publié, nous avons le taux, l'espérance de vie le plus bas de la Terre. Nous avons la ville la plus chère. Et puis, en l'espace de moins d'une décennie, le président du Bénin a fait de son pays un pays intermédiaire. Et pour vous répondre directement, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'efficacité. Vous pouvez passer 10 ans à tourner en rang, et le terme n'est pas de moi, le terme est du confrère Kakbaye, mais ce n'est pas parce que vous aurez 50 ans que vous allez être utile à votre pays. Donc la question ici n'est pas une question de temps passé au pouvoir, mais d'efficacité. Et ça ne pouvait pas nous étonner. Aujourd'hui, on nous parle de référendum constitutionnel. Donc le projet Kakbaye est mort et enterré. Il est question désormais de référendum constitutionnel. Il a été publiquement désavoué. Il ne pouvait en être autrement. Parce que s'il est vrai, encore une fois, que des modifications, des dispositions peuvent être modifiées dans une constitution, la volonté du peuple centrafricain dans cette même constitution doit être respectée. Quelle est-elle? Cette volonté, c'est de dire que certaines dispositions, en tirant leçon justement de notre histoire, Pounakou, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Pounakou. Et que quand vous avez terminé le bail qui vous a été confié par le souverain primaire qu'est le peuple centrafricain, il faut avoir l'humilité de passer la main et de dire que j'ai reçu le pays entre les mains du peuple, je rends au peuple et je me retire pour m'occuper de ma famille.
Voilà,
c'est de cela qu'il s'agit.
Les 2 minutes sont terminées, égalité de 2 minutes. Je vais vous donner la parole, vous allez continuer avec une nouvelle question. Comme ça, vous allez continuer dans le temps que vous serez donné. Comme ça, vous allez rebondir. L'idée de la nouvelle constitution attend aussi disqualifier les binationaux à l'élection présidentielle. Ça partant de votre proposition, M. Kakbaye. Et pourquoi?
Armando, je suis vraiment outré d'entendre mon doyen confrère qui me présente ici une jalousie pas possible dans le domaine de ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux parce que si, au moins, je ne me levais pas pour avoir cette réflexion, si je n'osais pas pour faire cette proposition, on n'en serait pas arrivé aujourd'hui. Et c'est lui qui m'informe aujourd'hui que mon projet est déjà enterré, ma proposition désavouée. Non, je reste toujours, parce que de tout ce qui va se passer, ça va revenir encore à l'Assemblée. Et là où on va demander à ce que l'initiateur de la proposition de loi revienne pour s'expliquer, c'est pour dire que je l'informe maintenant, mon projet n'est pas enterré, ma proposition de loi n'est pas enterrée, ce n'est qu'à base de ce que j'ai posé, de ce décor que j'ai planté, que le travail est en train de s'effectuer. Donc, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. C'est pas...
Revenons sur la question que je viens de vous poser sur la disqualification des binationaux dans votre projet à l'élection présidentielle.
Armando, tu sais, nous sommes juristes. Dans notre jargon, nous utilisons ce qu'on appelle... Il y a un terme qu'on utilise beaucoup plus et connu de tous, le conflit d'intérêts. C'est sous cet angle-là que je me suis dit, comme ce n'est qu'une proposition que j'avais faite, je me suis dit... Si aujourd'hui nous avons un président de la République qui a double nationalité, cela va poser un sérieux problème à la gestion de l'État, à la gestion même des affaires publiques. Parce qu'aujourd'hui, s'il se produit un litige ou un différend entre les deux États, on va se fonder sur quelle position, ou bien même le chef de l'État qui est là, qui a double nationalité, est-ce qu'il va jouer un jeu franc pour défendre sa nation vis-à-vis de l'État? Il appartient également.
Mais il est d'origine centrafricaine.
D'origine centrafricaine. C'est pourquoi nous, on a dit, et cela n'est pas refusé, non, on n'a pas refusé à ce que les centrafricains aient double nationalité. Seulement à la sommité de l'État que nous avons dit, que j'ai proposé que tous ceux qui doivent être candidats
à la présidentielle
doivent nous présenter seulement une seule et l'unique nationalité d'origine centrafricaine. Ceci... pour prévenir tout ce qui est conflit d'intérêts. Donc voilà.
Monsieur, merci. Vous avez 3 minutes aussi comme monsieur Kadayan.
Mais Armando, je suis très triste. Je suis très triste parce que je dois avouer que quand je venais à ce débat, j'étais persuadé que l'initiateur, comme le dit, de la révision de la Constitution aurait certainement des arguments juridiques et techniques à faire prévaloir autour de cette table. À l'arrivée, je me rends compte que c'est le raisonnement que peut tenir le commun des mortels au coin du feu. Il n'y a pas d'argument juridique. Je cherche encore à comprendre ce qui sous-tendait son projet. On vous dit, j'ai voulu mettre ce projet parce qu'il y aurait litige entre les deux. Est-ce que c'est suffisant pour réviser une constitution? Boganda donc doit se retourner dans sa tombe. Je suppose que vous avez lu Boganda parce que vous partagez avec lui la même aire géographique. Ce grand homme, ce grand fils de ce pays, cet homme généreux et qui a conçu la République, c'est toute sa pensée que vous remettez en cause. C'est-à-dire que c'est surtout les fondements de la République, à travers son père fondateur, que vous remettez en cause. Et je voudrais faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que c'est ce qui s'est passé. Il faut éviter de jouer avec la vie des Centrafricains. Vous savez, je voudrais vous dire que vous serez tenu pour personnellement responsable de toute vie humaine qui sera perdue dans ce pays, vous et tous les apprentis sorciers, qui, pour faire plaisir à un régime, sont capables de mettre le feu à la maison. Vous serez tenu personnellement pour responsable de toutes les vies humaines qui seront perdues dans ce pays, dans la défense de la démocratie. Et je le dis ici pour qu'on prenne date. Parce que finalement, dans ce pays, pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes erreurs? C'est parce que lorsque les choses changent, on devient amnésique. Moi, par exemple, vous avez dit ici, et nous l'avons enregistré. Et je l'espère pour vous, chers confrères, que vous aurez des éléments pour étayer ici. Quand la lumière sera éteinte, c'est-à-dire quand quelqu'un d'autre aura passé la main à un autre. Le courage de l'agitation qui est la vôtre aujourd'hui pour soutenir vos accusations. Et je vous dis, je le répète en homme d'honneur, que tout ce qui a été dit ici a été retenu. Et je reviendrai certainement quand le moment sera venu de rendre compte des accusations gratuites sur l'homme, sur sa réputation que vous faites sous votre régime, sans tenir compte, parce qu'on est habitué à l'impunité. Vous parlez de double nationalité. La double nationalité, c'est pas ça qui a produit cette espérance de vie de 53 ans, qui est le taux le plus bas au monde. C'est pas la double nationalité qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on soit le pays, le deuxième pays le plus pauvre au monde. Ce n'est pas la double nationalité qui a fait qu'aujourd'hui, Bangui est la ville la plus chère sans industrie. C'est pas la double nationalité qui fait aujourd'hui que la diplomatie du coq sans tête qui fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale nous sèvre et nous n'avons même pas, comme vous le savez, parce qu'un discours nationaliste doit être sous-tendu par les moyens. On peut pas être africaniste, souverainiste, et puis à l'arrivée, tendre la main pour que vous êtes à l'Assemblée, vous savez très bien. Plus de la moitié de nos recettes, c'est la communauté internationale. Quand on peut faire la guerre, il faut préparer la guerre. Il ne faut pas faire des discours oiseux, et c'est le peuple centrafricain qui en paie le prix. Aujourd'hui, vous voyez bien que les centrafricains sont en train de mourir avec vos discours de « nous sommes souverains ». Pourquoi vous tendez la main quand vous n'avez pas d'industrie, quand vous n'avez rien, et que vous représentez 4% dans la circulation de la richesse de la CEMAC, loin derrière l'avant-dernier qui plafonne déjà à 12%. C'est parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper de l'essentiel. Nous, ce que nous voulons, c'est de rassembler les Centrafricains pour pouvoir sauver ce pays-là, sauver sa constitution et sauver la démocratie.
Voilà, nous allons prendre en ce moment les réactions écrites et orales des auditeurs sur cette question.
Armando, bonsoir. J'aimerais seulement poser la question de savoir où est-ce que le gouvernement peut nous situer sur la source du fonds alloué pour la révision de la Constitution, du moment où l'autorité nationale des élections avait dit que les élections municipales sont reportées à cause du financement. Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent pour organiser le référendum? Moi, je pense que c'est de la moquerie.
Oui, bonjour, Armando Yanginji. C'est Monsieur Hélène Dingoni. Oui, je suis à Bria. Ouais, bon, pour la modification de la constitution, là, moi, je vois que c'est pas mauvais. Il faut revoir notre constitution. Dans la constitution, il y a des choses dont les Centrafricains ignorent. Mais c'est au gouvernement, c'est au président de revoir ça pour le bien de tous. Mais même si le président veut briguer le troisième mandat, moi, je vois pas le problème. Je vois pas de problème. Puisque je sais que le Touadéra, c'est l'autre là. Touadéra, il est comme Bokassa. Bokassa, il est venu sauver la RCA. Donc, on le laisse. Même, il peut faire même 10 mandats. Je vois qu'avec lui, la RCA va changer. Donc, laissons-le tranquille. Afin qu'il puisse aider notre pays. Donc je souhaite à tous les Centrafricains de suivre la politique de Touadéra. Avec Touadéra, on va construire notre pays. Moi, d'ailleurs, c'est notre président à tous. On l'a voté. On lui laisse d'abord la chance de faire ce qu'il veut faire. Donc, je souhaite à tous les Centrafricains de se calmer et nous allions derrière Touadéra pour relever notre pays. Merci, Armando.
Bonjour, cher Armando Yangindi. Bonjour aux invités sur le plateau. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, notamment de l'émission Patara. Bonjour à tout le peuple centrafricain. Je suis votre compatriote Giovanni Damondi depuis Benzwi. C'est sans détour que je voudrais commencer par dire que cette question qui touche chacun de nous, que nous ne soyons touchés ou pas, ou que nous le voulons ou non, exige que nous choisissons notre camp. Il y a de ces questions ou des termes qu'on ne peut que se servir avec prudence comme celui qui touche à la Constitution. Je m'oppose donc vigoureusement pour une nouvelle Constitution sous un prétexte que ce soit. D'ailleurs, ceux qui veulent modifier cette constitution vacille, ils ont d'abord commencé par le terme d'une modification partielle et ont rencontré des arguments juridiques solides pour ne pas paraître amateur. Ils nous parlent aujourd'hui de l'écriture d'une nouvelle constitution, que c'est tâtonnant tout ça. Modifier ou adopter une nouvelle constitution ne guérira pas tout ce qui pèse, je pense, aujourd'hui sur notre pays, notre démocratie ou les larmes sur notre tissu social. Adopter une nouvelle constitution n'améliorera pas l'état du délabrement avancé du pays. Des routes à peine sorties de la repas Bongipoko, on aurait presque l'impression qu'il est écrit sur ce mur à l'entrée bienvenue et bon retour en direct du Moyen-Âge. Cela n'améliorera nullement les conditions de vue de ce millier de Centrafricains comme Laurentine, une dame que j'ai rencontrée sur la route de Damara, qui se nourrit juste d'une feuille de manioc avec comme ingrédient de l'huile de palme et du sel, et qui a sa garde deux enfants de ses petits-fils. Le serment que le président Touadéra a prêté devant le peuple en 2016, comme celui récité dans la maison du peuple en 2021, était un serment envers Dieu et la nation. Ce n'est pas envers son parti politique ou une faction du peuple. Et donc il se doit de se conformer à exécuter fidèlement cet engagement. Son serment n'est pas si différent de la promesse que nous faisons tous au drapeau qui flotte chaque jour au-dessus de nous et qui remplit nos cœurs de fierté. Je conseille cependant que nous faisons les choses avec élégance. Et donc, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Je vous remercie.
Bonjour, Radio Ndekeluka. Je suis Ibrahim Mahamat. Je suis centrafricain. La constitution du 30 mars 2016 est une constitution qui nous a été imposée. Je voulais juste dire, si on veut réellement être un pays développé, je voulais juste dire par là que il y a eu de la mainmise. C'était une constitution qui était sortie à peine de la rébellion des Séléka. Cette constitution est vague. Il y a eu des incohérences dans cette constitution. Dans la proposition de loi portant sur la modification de la nouvelle constitution, initiée par ce jeune député, dedans, il y a d'abord l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Vous voyez, par contre, dans l'ancienne constitution, on dit qu'en cas de vacance du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale et le premier. Mais on n'a pas dit si le président de l'Assemblée nationale doit faire quoi ou si le premier ministre chef du gouvernement doit faire quoi. Il nous faut d'abord des hommes forts, comme ce jeune député par exemple, qui est une fierté pour la République centrafricaine. Il a dit haut ce que tout le monde dit bas. Il nous faut des institutions fortes. Et pour tout ça, il nous faut une constitution digne de ce nom. Moi, je suis d'accord qu'il faudra modifier la constitution.
Bonjour Armando et aux auditeurs de l'émission Patara. Je suis Nelson de Bangui. Notre pays a connu plusieurs moments d'instabilité, derrière lesquels se trouverait pour la plupart l'idée de modifier la constitution comme étant l'une de ses causes. Cette volonté désormais ostentatoire de l'actuel régime, qui consiste à modifier la constitution, comporte en effet un grand risque de conduire le pays dans une nouvelle crise. Il s'agit pour moi simplement d'une question de forme, pas de fond. Le plus cohérent et très patriotique, c'est de préparer des successeurs. Personne n'a le monopole du savoir. Tous les Centrafricains, intelligents, dynamiques, éclairés et patriotiques, doivent passer à tour de rôle pour tâcher à rendre meilleure la vie de leurs compatriotes et faire face aux défis de notre existence. Connaissant la nature même de l'être humain, cette limitation de mandat est une excellente disposition qui permet de faire croire à tous que personne n'est au-dessus des institutions de l'État, et elle contribue par ricochet à freiner une éventuelle transfiguration d'un régime démocratique à une oligarchie, chose difficile à supporter en 21e siècle. Pour un pays, d'ailleurs très assoiffé de la démocratie comme la nôtre, sauter ce verrou est un péché qui entraînera la RCA dans une descente aux enfers.
Oui, bonjour, je suis Sensei Pokaya. Je reste suite à ce qu'on puisse carrément changer, parce que cette constitution-là, ça ne cadre plus à la réalité de la République centrafricaine. Et également, cette constitution-là a été bâtie par des experts étrangers. Cette constitution-là a été copiée-collée de la France ainsi que du Bénin, quoi. Donc, nous, en tant que centrafricains, nous voulons notre constitution. La constitution que nous, centrafricains, nous allons élaborer à notre niveau ici. Et l'histoire de la constitution ou bien aspect constitution là, ça ne doit pas seulement toucher les intellectuels ou ceux qui pensent que la République centrafricaine est pour eux, non.
Merci beaucoup à vous. Autre réaction écrite dans ce débat, nous avons le premier courrier émanant d'un étudiant centrafricain au Maroc, lequel ne décline pas son identité. Selon lui, le changement de la constitution ne pose aucun problème, mais il faut éviter le copier-coller. Il martèle en disant que si la République centrafricaine a un visionnaire qui veut changer radicalement le pays, il ne faut l'empêcher. Fulgence Combo estime que le changement de la constitution a toujours un seul but, celui de maintenir le président au pouvoir. D'après lui, certains centrafricains sont conscients que le chef de l'État a fait ses preuves, donc il n'y a pas de problème. Pour Degrand Balembe à Bangui, les élections municipales sont primordiales, que le référendum constitutionnel hérité d'Oneng du Front républicain qui soutient le pouvoir souligne. La constitution du 30 mars est caduque, discriminatoire et rétroactive. Nous avons encore plein de réactions, mais je vous demande juste de décliner votre identité pour nous permettre d'ailleurs de crédibiliser vos réactions. Monsieur, vous avez écouté les centrafricains sur cette question. Quel commentaire faites-vous? Je vous donne 30 secondes, monsieur Kakpayen, sur les réactions des centrafricains.
Nous sommes en démocratie et lorsque le problème se pose de cette manière, chacun est obligé de choisir son camp. Et donc, je souscris totalement. Ça, c'est la pensée du centrafricain. Je ne peux pas aller à l'encontre de la pensée émise ici. Et voilà, il y a eu des pour et il y a eu des contre. Donc, je respecte totalement le point de vue des uns et des autres parce que c'est ça, règle de la démocratie.
Monsieur, 30 secondes aussi comme vous.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire le confrère Kapoen au nom de la démocratie. Mais la démocratie doit s'exprimer dans la liberté et dans le respect de la Constitution. Or, ce ne peut pas être la démocratie si la liberté viole la Constitution de notre pays. Donc, il n'y a pas de liberté indéfinie. Il y a des limites à la liberté, il y a des exclusions dans notre Constitution. Il est sain que le peuple puisse s'exprimer sur les questions. Moi, je respecte ça.
Nous allons écouter le président Touadéra lui-même sur cette problématique. Je rappelle que c'est un extrait de son discours lors de la commémoration de l'indépendance le 13 août dernier.
Mes chers compatriotes, depuis le dialogue républicain, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger la révision de la Constitution de 30 mars 2016. La représentation nationale, sensible aux aspirations profondes du peuple, manifestées à travers des pétitions et marches de soutien à la réforme constitutionnelle organisée sur l'ensemble du territoire le 6 août 2022, par l'ensemble des forces vives de la nation, vient de demander au gouvernement de déclencher la procédure de référendum constitutionnel. Oui, mes chers compatriotes, notre corpus juridique n'est pas immuable. Il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales. En ce jour historique, je voudrais réaffirmer ma volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Comme j'ai eu à le réaffirmer en certaines circonstances, je ne ferai rien sans la volonté du peuple détenteur de la souveraineté nationale. Cependant, je ne saurais demeurer indifférent au cri de cœur de mon peuple qui est dépositaire par excellence du pouvoir souverain. Je vous ai écouté, je prends acte de vos sollicitations pressantes qui me sont parvenues de partout réclamant une nouvelle constitution. Notre constitution énonce de manière péremptoire que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce, soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Il appartiendra donc au gouvernement d'en aviser et de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale, je veux dire à votre demande. Pour ma part, je demeure attaché au second mandat que vous m'avez souverainement accordé, celui de définir et de conduire la destinée de notre pays conformément à mon programme de société.
C'était donc le chef de l'État, Faustin Kantouadéra, dans ce débat. Désormais, c'est la voie du référendum qu'entreprendra le gouvernement. Si nous considérons les questions principales de ce débat, Monsieur Bolingumba, a-t-on les moyens financiers pour ce scrutin?
Moi, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Je note simplement que les élections locales ont été repoussées parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. J'ai écouté attentivement le président de la République et j'ai de l'indulgence pour le président de la République. Il n'est pas juriste. C'est ceux qui l'entourent, qui se disent juristes, qui sont à plaindre et qui certainement l'induisent en erreur. Le président de la République ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on prétend serment, quand on viole ce serment, il y a parjure. Donc, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il n'est pas juriste, le président de la République. Il n'en est pas moins responsable en termes d'actes posés et les conséquences de ces actes. Je dis tout simplement que les préoccupations qui auraient dû être les nôtres, mais surtout les préoccupations qui auraient dû être celles du président de la République. C'est l'eau potable pour le Centrafricain, la construction des routes pour les Centrafricains, la construction des écoles pour le Centrafricain, mais surtout la cohésion sociale. L'un des intervenants vous a dit tout à l'heure que la constitution de notre pays était devenue caduque et tout compte fait discriminatoire. Donc en réalité, on veut remplacer la discrimination par une autre discrimination. Je trouve d'ailleurs la constitution de notre pays très bien rédigée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a essayé avec avec moins de succès, d'abord de la réviser, ensuite de contourner les verrous. Si vous introduisez dans le corpus national, au plus haut sommet, dans l'ordonnancement juridique, ce que représente la constitution d'un pays, la discrimination, je voudrais dire que le juriste que je suis ne peut pas ne pas rappeler que ces questions avaient été soulevées. Et je dis ça pour l'information de mon confrère Kakpayen, qui était pourtant au Conseil national de transition. Parce qu'entre juristes, lorsqu'il y a un problème qui se pose, les juristes toujours se réfèrent aux travaux. Et lors de la rédaction de la Constitution du 30 mars 2016, la question de la double nationalité avait été posée par les constituants. Cette question avait été abordée et évacuée. À savoir que notre histoire et notre volonté exprimée dans le préambule de cette Constitution ne pouvait pas permettre l'exclusion de la double nationalité. Donc vous enforcez une porte ouverte qui avait, ce problème avait déjà été réglé lors de la rédaction de la Constitution du 30 mars 2016.
Vous l'avez déjà évoqué, M. Kakpayen, sur l'extrait du discours du président de la République. Désormais, c'est la voie de référendum, mais est-ce que les moyens sont disponibles?
Je voulais d'abord rebondir sur la question soulevée par le confrère Bolingumba. Vous savez, on était déjà en avance, mais il revient encore sur la question de la nationalité. Vous savez pourquoi il est touché? Peut-être que lui aussi, il en a. Cette double nationalité, ce n'est pas discriminatoire. Si on ne le fait pas, c'est pour dire que nous ne protégeons pas la nation. C'est pour dire que si aujourd'hui, on laisse la latitude à tout le monde, même à des étrangers qui sont là, si on ne contrôle pas bien, il se pourrait qu'un étranger puisse vraiment être aujourd'hui président de la République chez nous. C'est pourquoi on a dit pour prévenir. C'est pourquoi on a décidé
on a
que ça
temps.
Soit
voilà.
On a juste que la sommité de l'État pour que quelqu'un puisse présider à notre destinée.
Vous l'avez déjà dit.
Effectivement, parce que
le temps nous fait défaut sur la question du financement de ce référendum.
Je pense que si le chef de l'État, dans son discours, dit effectivement valide ou donne quitus, c'est-à-dire accepte ce que le peuple a fait, c'est pour dire que le gouvernement certainement va mettre des moyens en place pour que nous puissions aller à ce référendum tant attendu. Voilà ma position vis-à-vis du discours du chef de l'État.
Eh bien, c'est la fin de ce débat politique de Radio Ndekeluka. Il était consacré au projet de révision de la Constitution qui s'est désormais transformé à l'écriture d'une nouvelle Constitution fondamentale voulue par Bangui. Vous pouvez le réécouter, ce débat, en podcast sur www.radiondekeluka.org. Merci à nos deux auditeurs, à nos deux invités, j'allais dire, et aux auditeurs qui, de près ou de loin, ont réagi. Bon week-end et surtout, prenez soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.